C'est trop calme. J'aime pas trop beaucoup ça. Je préfère quand c'est un peu trop plus moins calme.
You talking to me? You talking to me? Then who the hell else are you talking to? Talking to me?
Moi j'ai dit bizarre. Comme c'est bizarre.
Eastwood. Clint Eastwood.
Marcello! Come here!
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Nous sommes le mardi 14 mai 2024. Je viens de regarder l'horloge qui indique 14 heures pétantes. Et vous êtes bien et même très bien sur O2 Radio à l'écoute de votre émission favorite, j'ai nommé Ciné 100. En ce jour, le 135e de l'année, jour de la Saint-Mathias, qui, rappelez-vous, a remplacé Judas parmi les apôtres, il commence à faire un peu meilleur dehors. On le voit au sourire qu'arborent les gens dans les rues, aux tenues plus légères que portent les femmes et à cette douce fragrance qu'exhalent les roses à peine écloses. Une fois de plus, j'ai le plaisir d'être en compagnie de celle qui pousse les boutons et peut danser en même temps, celle qui aurait pu succéder à Judas ou alors même d'être la mère de Jésus si elle était née plus tôt. Anne-Lise, comment allez-vous? Anne-Lise.
Bonjour Patrick, mais ça va bien et vous?
Ah bah je vais très très bien, moi. Vous savez quand je vous vois. Mais qui est donc arrivé à notre petite Carole?
Ah bah vous savez, elle a des obligations et puis Jean-Jacques avait aussi un souci aujourd'hui.
Oui c'est ça, Jean-Jacques est repassé au stand pour regonfler ses pneus.
Voilà, hein, donc du coup on est
tous les deux. On est que tous les deux, mais ça ne fait rien, on va quand même faire une belle émission, comme d'habitude. Alors Anne-Lise, de quoi est-ce qu'on parle donc dans le poste aujourd'hui?
Aujourd'hui s'ouvre le 77e Festival de Cannes, l'occasion de revenir à son origine. Le festival a été créé en réaction au fâcheux relent politique de la Mostra de Venise de 1938, inauguré par Joseph Goebbels, ministre de la propagande du Reich. En France, Jean Zay, alors ministre de l'Éducation nationale, soutient l'idée d'un festival de cinéma. Mais où ? Biarritz d'abord retenu, mais c'est finalement Cannes qui remporte l'implantation. Hélas, le 3 septembre 1939, la guerre est déclarée et le festival ne peut avoir lieu.
Paf.
Il faut attendre la fin de la guerre pour qu'il voie finalement le jour. Le principe des récompenses est simple. Chaque pays participant se voit attribuer un grand prix pour le meilleur film qu'il aura présenté. Pour la France, le prix du jury international
couronne la bataille
couronne
du Rail.
La bataille du Rail, tout à fait, oui. De René Clément. En 1955, le Grand Prix est remplacé par la Palme d'Or, dont le symbole est emprunté aux armoiries de la ville de Cannes. Même si la légende veut que ce soit Cocteau qui ait imaginé sa longue forme effilée.
Ce serait pas étonnant.
Bref, oui, le premier film à remporter la Palme est le très oublié Marty de Delbert Mann. Depuis, d'autres prix se sont rajoutés. Prix spécial du jury, prix de la mise en scène, caméra d'or, prix un certain regard, prix d'interprétation masculine et féminine. Depuis sa création, le festival a accueilli plus de 1800 films. Dans Ciné 100, nous allons en retrouver quelques-uns, ainsi que quelques moments marquants de l'événement. L'épisode numéro 28 s'intitule « Les palmiers de la croisette ».
Coin, coin.
Il vincitore est...
Le gagnant est...
En 2006, la Palme d'Or est attribuée à Ken Loach pour « Le vent se lève ». Ken Loach récidivera 10 ans plus tard avec « Moi, Daniel Blake ». « Le vent se lève » est l'un des films les plus personnels du réalisateur britannique. Petit résumé.
1920, dans le comté de Cork, en Irlande, le docteur Damien O'Donovan est sur le point de quitter son village natal pour exercer la médecine dans un hôpital de Londres. Pendant ce temps, son frère Teddy commande la brigade locale de l'IRA. Vous savez ce que c'est? L'armée républicaine irlandaise, bien sûr. Après un match de hurling, Damien est témoin de l'exécution sommaire de son ami Michael par des militaires britanniques du régiment des Black and Tans, traduisé « noir et fauve ». Bien que fortement ébranlé, il repousse les supplications de ses amis de rester en Irlande et de rejoindre l'IRA, car il dit que la guerre est perdue d'avance. Avant qu'il ne quitte la ville, Damien voit des soldats de l'armée britannique essayant vainement et violemment d'intimider le garde et le conducteur d'un train parce qu'il refuse aux troupes de monter à bord. Damien décide alors de rester et de rejoindre la brigade de l'IRA de Teddy.
Anecdote pour le moins parlante. L'intérêt commercial suscité par le film en Grande-Bretagne a été moins important que dans les autres pays européens.
Tiens.
Comme souvent pour les films de Ken Loach d'ailleurs. Et d'ailleurs, seulement 30 copies du film devaient être distribuées contre 300 en France. Alors finalement, en raison de l'obtention de la Palme d'Or, le film est sorti sur 105 écrans à travers le Royaume-Uni. Le parti politique Respect, donc Ken Loach est membre, a appelé la population à aller voir le film dès le premier week-end pour persuader l'industrie du cinéma de le programmer plus largement.
En août 2006, Thomas Satinol du journal Le Monde disait ceci dans sa chronique.
Dans la campagne irlandaise, filmée avec amour mais sans lyrisme, cette première partie, celle de la guerre qui va conduire à la victoire, va bientôt apparaître, malgré cette rude dureté, comme une épopée solaire. Loach a voulu accorder autant de place au moment où l'élan révolutionnaire se divise, où s'affronte le désir de compromis et celui d'absolu. Mais si le vieux militant a depuis longtemps choisi son camp, celui de l'absolu, il ne caricature pas pour autant l'adversaire et contemple avec un amour désolé les lendemains de victoire.
En octobre dernier, lors de l'émission de France 5 « C'est à vous », Loach revenait sur ses préoccupations. Le cinéma, la politique et l'âge. Rappelons que Loach a 87 ans.
Eh oui.
Vous savez, un film vous emmène jusqu'à un certain point, mais pas plus loin. Et ensuite, c'est à vous de réfléchir, de poser des questions. Les films peuvent vous, quelquefois vous faire poser des questions ou vous mettre en colère. Mais pour progresser, pour avancer, il faut vraiment un mouvement politique. Il faut quelque chose, quelqu'un qui fasse bouger les choses, qui puisse exprimer les exigences, les demandes, les changements qui sont nécessaires. Et d'ailleurs, justement, les syndicats peuvent jouer un rôle important. Vous avez des gens, par exemple, un homme qui avait vraiment des problèmes de santé mentale, qui a été contraint à trouver du travail. Ses médecins disaient qu'il ne doit pas travailler. On l'a forcé de le faire. Il a trouvé un travail, mais il était tellement terrifié qu'il s'est suicidé le premier jour du travail. Et c'est le genre de système qu'ils veulent renforcer. C'est un privilège extraordinaire de pouvoir faire un film. Pourquoi ? Parce qu'on travaille avec des gens formidables, on a accès à la vie des gens, ils vous font confiance. Et on travaille dans... c'est l'art le plus merveilleux, puisqu'il y a tout. Il y a le drame, la musique, la comédie, il y a tout dans le cinéma. Mais il faut être réaliste. Je ne sais pas si je vais pouvoir faire un nouveau tour de piste. J'aimerais. Au bout d'un moment, on n'y arrive plus.
Donc je voulais dire quand même que Ken Loach nous offre un film fort et poignant qui aujourd'hui encore trouve un écho dans les guerres qui se déroulent un peu partout dans le monde. Ce film est porté par quatre acteurs talentueux. Cillian Murphy, Paddy Delaney, Liam Cunningham et Orla Fitzgerald.
Le titre a été emprunté à une ballade irlandaise, The Wind That Sucks the Barley, Le vent qui secoue l'ogre, écrite par le poète Robert Dwight Joyce et interprétée ici par le groupe Solas.
Between the old love and the new love, the old for her, the new that made me think of Lyle dearly. When soft the wind blew down the glen and it shook the golden barley, it hard the woeful words to frame, was worse the tide of found us. Harder still to bear the shame of foreign chains around us. And so I said, the mountain glen, I seek it more than any. And join the bold united men, while soft wind shakes the barley.
fond arms around her flinging. The foeman's shot burst on her ears, from out the wildwood ringing. The bullet pierced my true love's side, in life's young spring's awakening. And on my breast in blood she died, while soft wind shakes the barley. And blood for blood without remorse, I've taken to Goulart Hollow. I've laid my true love's clay cold corpse, where I full soon will follow. And round her grave I wander here, now night and morning early. To the breaking heart where'er I hear the wind that shakes the barley.
Ken Loach, huit autres réalisateurs ont eu l'honneur d'être doublement palmés. Le premier d'entre eux est Alf Schulzberg, je vous prie de m'excuser pour l'interprétation du nom, avec Tourment en 46 et Mademoiselle Julie de Strindberg en 51. Après lui, c'est le tour de Francis Ford Coppola avec Conversation secrète en 74, puis en 79, il déboule avec Apocalypse Now.
Associé à la nouvelle vague japonaise, Shoei Imamura est primé en 83 pour La Ballade de Narayama, puis en 97 pour L'Anguille. Emir Kusturica rafle la mise en 85 et 95 avec Papa est en voyage d'affaires et Underground. Le Danois Bill August remporte le gros lot avec Pelle le Conquérant.
Pelle le Conquérant, oui.
En 88 et Les Meilleures Intentions en 92.
Alors, quand deux frères sont doublement palmés,
oui.
Bah, ça donne quatre palmes au total. Et bah, figurez-vous que c'est ce qui est arrivé aux frères Luc et Jean-Pierre Dardenne avec
sûr.
Rosetta en 99 et L'Enfant en 2005.
Donc, huit palmes en tout.
Oui. Non, quatre.
Quatre. Ah, ben bah oui, deux fois deux.
Deux fois deux, quatre.
Ah, mais, oui.
Mais deux fois deux, ça fait jamais huit.
C'est vrai.
Voilà. À vous.
Michael Haneke, dans les films, ont souvent divisé la presse et le public. Remporte la palme avec Le Ruban Blanc en 2009 et Amour en 2012. Enfin, le 9e Ruben Östlund acquiert une reconnaissance internationale avec The Square en 2017. Il récidivera en 2022 avec Sans filtre.
Composante indissociable d'une œuvre cinématographique, la musique donne le ton et le rythme d'un film. Il en est ainsi pour Conversation secrète de Coppola, où la musique était jouée aux acteurs sur le plateau avant le tournage des scènes, notamment pour Out of Nowhere, composé par Johnny Greene et interprété ici par Johnny Smith et son trio. Thank you.
voilà, les palmes d'or ont parfois un goût un peu sulfureux. Avec la vie d'Adèle, d'Abdel Latif Kechiche, nous ne sommes pas dans le rose bonbon. Non, on est dans le sulfureux, voire même dans le franchement dérangeant.
Alors, âgée de 17 ans, la jeune Adèle croit forcément qu'une fille doit rencontrer des garçons et rêve du grand amour. Alors, elle se laisse séduire par Thomas, un élève de terminale, et met rapidement fin à cette liaison. Et puis elle croise Emma, une jeune femme aux cheveux bleus, et c'est le coup de foudre. Cette rencontre bouleverse totalement sa vie. Bande-annonce.
Allez, les détails.
Il y en a pas.
Comment ça, il y en a pas? Vous avez fait quoi? Je comprends pas.
On a passé la première ensemble, c'est tout.
C'est parce que c'était naze que tu ne racontes pas?
Enfin, on dirait la PJ du sexe, quoi. J'ai l'impression de faire semblant. Faire semblant de tout. Moi, il me manque un truc.
L'enfance, c'est ça, hein. C'est l'âge où... Vous en sortez, j'espère. C'est l'âge où on n'est pas encore assez mûr, on n'est pas encore assez fort.
T'es gênée? C'est qui la fille qui est venue me chercher la dernière fois?
Avec les cheveux bleus. Non mais après moi je m'en fous, tu vois, que tu sois gouine. Mais le truc c'est que t'es venue chez moi plusieurs fois dormir à poil dans mon lit, tu vois. Là c'est un peu plus dur.
Je viens de te dire, je suis pas lesbienne, faut que je te le dise comment, putain, t'es conne ou quoi?
On est ravis de vous rencontrer, Emma. En tout cas, c'est très gentil de l'aider à préparer ses devoirs de philosophie.
Merci.
Tu les aimes tes cours de philo?
Ça va?
Tu dis que t'avais honte d'être avec une fille?
Non, j'avais pas honte, c'est juste que...
Ça fait combien de temps que tu me prends pour une conne?
Je te prends pas pour une conne, je t'ai jamais passé pour une conne.
Dégage! Tu dégages! Sors de ma vie!
Pourquoi tu mens?
Je mens pas.
Alors pourquoi tu pleures?
Je pleure pas.
Vous me direz qu'il n'y a pas là de quoi battre un chat. On ne bat jamais les chats d'ailleurs. Mais oui. Entre l'idée du film, le scénario et le traitement cinématographique, il y a un espace qui permet au réalisateur de nourrir tous ses fantasmes. On aurait pu se contenter d'une bleuette sentimentale, avec une découverte de soi et de l'autre, portée d'abord par le sentiment puissant de l'amour. Mais Kechiche a fait un autre choix. Il a suivi une autre voie. Et c'est là que la polémique naît. Il est question de ses choix artistiques, de sa manière de filmer les corps de près, très près, trop près, diront certains.
Comme souvent dans les films de Kechiche, tout commence par la littérature. En classe, Adèle étudie la vie de Marianne. Il faut que la terre soit un séjour bien étranger pour la vertu, car elle ne fait qu'y souffrir. Rapprochant un passage de ce roman inachevé de Marivaux d'un extrait de La Princesse de Clèves, le professeur interroge les élèves sur la notion du coup de foudre et sur l'impression de prédestination que l'on ressent parfois lorsque l'on rencontre quelqu'un. Et Kechiche avait déjà fait le coup dans l'esquive, souvenez-vous.
C'est vrai. Là, c'est Adèle Exarchopoulos que le réalisateur est allé dénicher lors d'un long casting.
Ah oui.
Elle est lumineuse, fraîche, sensuelle, malgré elle. Tout chez elle invite à la découverte du désir, du moins devant les objectifs de Kechiche. Jeune, belle, Adèle tombe sous le charme de l'amour fusionnel et passionnel, avec une Léa Seydoux beaucoup moins innocente que sa partenaire.
Les actrices et quelques techniciens ont révélé quelques temps après la sortie du film avoir vécu un tournage parfois compliqué, voire pénible. En septembre 2013, les deux actrices principales affirment à leur tour que le tournage fut très difficile, parfois violent, au point que Léa ne souhaite plus jamais tourner avec le réalisateur et qu'Adèle n'en soit pas vraiment sûre d'en avoir envie.
Toutes ces réserves faites, le film est important car il traduit une certaine idée du désir plus comme un moyen de possession que de partage entre deux êtres qui se sont choisis. L'homosexualité affichée d'Emma contraste avec l'incertitude d'Adèle dans son orientation sexuelle.
Et Palme d'Or en 2013, le film consacre à la fois le réalisateur et ses deux actrices sur un même plan, ce qui est rarissime. Pour la musique, on retrouve entre autres « I Went to Hell » d'ACDC.
Leave me be.
Nous parlons de films et de réalisateurs, oui. Mais il ne faudrait pas oublier les actrices et les acteurs doublement palmés, elles et eux aussi, d'autant plus que certains des films qu'ils ont interprétés sont tombés quelque peu dans l'oubli.
Alors oui, on va essayer de recomposer tout ça. Pour le prix d'interprétation masculine, Dean Stockwell, récompensé en 59 et 62, a inauguré la liste avant que Marcello Mastroianni ne lui succède pour « Drame de la jalousie » de Tore Scola et pour « Les yeux noirs » de Nikita Mikhailov. Enfin, Jack Lemmon clôt la liste pour « Le syndrome chinois » de James Bridges et « Missing » de Costa Gavras.
Côté prix d'interprétation féminine, elles sont 5 sur la plus haute marge du podium. Vanessa Redgrave, Isabelle Huppert, Hélène Mirren, Barbara Hershey. Sans oublier une mention spéciale pour Isabelle Adjani, qui est doublement récompensée en 81 pour Quartet de Jem Ivory et Possession d'Andrzej Żuławski.
Alors, Cannes est synonyme de Palme d'Or, mais comme nous le disions au début de l'épisode, ce n'est pas la seule récompense distribuée. Ainsi, en 2004, le grand prix du jury, la plus prestigieuse récompense après la Palme d'Or, est attribué à Old Boy du sud-coréen Park Chan-wook.
Très attendu sur la scène internationale après son film Mademoiselle, Park Chan-wook livre un film tranchant sur la société. Petit résumé.
Alors qu'il s'apprêtait à fêter l'anniversaire de sa fille, Oh Dae-soo est arrêté par la police pour ivresse sur la voie publique. Arrivé plus tard, son ami Jo Wan persuade les policiers de le laisser partir. Mais sur le chemin du retour, Oh Dae-soo est enlevé, est ensuite séquestré dans une pièce sans savoir ni par qui ni pourquoi. Et avec pour seul lien avec l'extérieur, une télévision par laquelle il apprend que sa femme a été assassinée et qu'il est le principal suspect du meurtre, que sa fille a été confiée à des parents adoptifs. Oh Dae-soo passe le plus terre de son temps à s'entraîner à la boxe contre un mur en essayant de creuser un tunnel pour s'échapper.
Relâché 15 ans plus tard sans explication, Oh Dae-soo se voit confier un téléphone et est contacté par le commanditaire de son enlèvement alors qu'il est dans un restaurant. Après avoir dévoré un poulpe vivant, il s'évanouit et Mido, la chef cuisinière, prise de compassion, le recueille chez elle. Étrange.
Lors d'une masterclass, Park Chung-wook revenait sur son approche du cinéma et sur le cinéma coréen en général.
Je n'aime pas beaucoup le terme masterclass parce que je ne suis pas un maître et ce n'est pas non plus une leçon à l'école. Je considère ça comme une discussion entre pairs à pied d'égalité dont le but n'est pas d'enseigner quelque chose mais d'échanger sur les expériences des uns et des autres, confronter des points de vue et sympathiser tout simplement.
Je ne fais pas de démarche consciente pour faire table rase du passé ou de mes connaissances cinématographiques. Mais une fois que je travaille à un film, j'oublie mes références ou mes maîtres.
Je pense que si le cinéma coréen est apprécié, c'est en raison de son amplitude émotionnelle. Dans le cinéma moderne, ce sont peut-être les Coréens qui expriment le plus d'énergie, en fait, dans les sentiments et les états d'âme.
Le scénario d'Old Boy est une adaptation du manga du même nom de Nobuyuki Minegishi et Gaon Tsuchiya, sorti en 97, lui-même inspiré en grande partie par le Comte de Monte Cristo.
Il s'agit du deuxième volet d'un triptyque sur le thème de la vengeance qui s'ouvre en 2002 avec Sympathy for Mr. Vengeance et conclut en 2005 avec Lady Vengeance.
À travers Oh Dae-soo, son personnage principal, Park Chan-wook nous montre sa vision de la société. Son personnage ne se remet pas en question. Il cherche des réponses à ses questions, mais souhaite oublier les mauvaises choses qu'il a faites. L'amnésie, pour lui, est mieux que de faire face à ses erreurs, comme notre société qui oublie vite ses erreurs et ne souhaite pas non plus y faire face. Niveau distribution, Choi Min-soo et Oh Dae-soo, assez génial d'ailleurs, Yi Ji-tae joue Woo-jin, le ravisseur, et Ken Yeo-jung interprète Mido, la cuisinière.
Petite anecdote, parce que je sais que vous en êtes friande.
Oui.
Park Chan-wook a remercié à Cannes les poulpes qui avaient été mangées lors du film.
Étrange.
Oui, c'est vrai. Il a fallu pas moins de 4 poulpes lors de cette fameuse scène du restaurant. Bon, c'est d'autant plus étonnant, sachant que l'acteur Choi Min-sik est végétarien.
En effet. Oui. La bande originale composée par Shim Yong Jung, Lee Ji-soo et Choi Se-yoon contient The Last Waltz.
Pourriez-vous être assez aimable à l'heure qu'il est, au jour où nous sommes, et étant donné ce que nous savons, de me dire sur quelle longueur d'onde on vous attrape?
Mais bien sûr, sur 91.3, haut de radio, bien entendu.
Alors, des polémiques, le festival en a connu. Alors là, et à l'occasion de la fiction, la fiction peut rejoindre la réalité. Ainsi, le 10 mai 68, un groupe de réalisateurs, parmi lesquels François Truffaut et Claude Berry, interrompt le festival. Le groupe est mené par Jean-Luc Godard, qui porte un coup de gueule lié à la révolte des ouvriers et des étudiants.
On parle solidarité avec les étudiants et les ouvriers, et vous me parlez travelling et gros plans. Vous êtes
pas
de Jean-Luc
Godard. Il n'y a pas un seul film qui montre des problèmes ouvriers ou étudiants tels qu'ils se passent aujourd'hui. Il n'y en a pas un seul, qu'il soit fait par Forman, par moi, par Polanski, par François, il n'y en a pas. Nous sommes en retard. Nos camarades étudiants nous ont donné l'exemple en se faisant casser la figure il y a une semaine. Il ne s'agit pas ici de continuer ou de ne pas continuer à voir des films aujourd'hui ou demain. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de manifester avec un retard d'une semaine et demie la solidarité du cinéma sur les mouvements étudiants et ouvriers qui se passent en France. La seule manière pratique de le faire est d'arrêter immédiatement toute projection.
Bref, pour l'instant, nous avons abordé le meilleur du cinéma. Il ne faut pas pour autant en oublier le pire. Et heureusement, certaines cérémonies le récompensent, notamment les Brutus du cinéma créés en 2002, qui distinguent, je cite, les génies incompris, les interprètes dramatiques, les chefs-d'œuvre périssables. Les trophées sont un objet d'art absolument inutile qui fera très beau au-dessus de la cheminée. Ouvrons la boîte au récipiendaire avec trois exemples.
En 2003, le Brutus de la meilleure participation exceptionnelle est décerné à la Valise Vuitton pour La Repentie de Laetitia Masson.
En 2004, Brutus du meilleur acteur ex aequo à Vincent Pérez pour Je reste, à Vincent Pérez pour Le pharmacien de garde et à Vincent Pérez pour Fanfan la tulipe.
Enfin, en 2009, le Brutus de la meilleure prestation technique revient au Soit je meurs, soit je vais mieux, un film de Laurence Ferreira Barbosa. Mais refermons soigneusement la boîte, s'il vous plaît.
Alors, Palme d'Or en 2004, Winter Sleep est un film turc réalisé par Nuri Bilgecelen.
Aydin, comédien à la retraite, dirige un petit hôtel de Cappadoce en Anatolie centrale avec sa jeune épouse Dihal, dont il est sentimentalement éloigné, et sa sœur Nekla, qui souffre de son récent divorce. En hiver, la neige recouvre la steppe et l'ennui ravive les rancœurs, poussant Aydin à partir. Mais il ne part pas, ne pouvant s'éloigner de Nihal, même si celle-ci a cessé de l'aimer.
Voilà le postulat de départ du film moins contemplatif qu'il n'y paraît. Même si le rythme est lent, même si les moments de silence et d'observation viennent combler les minutes, c'est un film d'une intensité rare. Céline nous transporte dans les méandres des psychologies de ces deux personnages, Dadine et Nila, qui ne s'aiment plus mais ne peuvent pas se résoudre à se quitter.
Alors il y a une foule de choses qui m'ont séduit dans ce film. La tension psychologique entre les personnages est bien maîtrisée. S'il y a des plans, il y a des images à couper le souffle, tant ils sont beaux. Les lumières intérieures sont dignes de certains tableaux de Bruegel.
Et puis les paysages enneigés de cette Anatolie presque désertique, battus par les vents et les bourrasques de neige. On a froid dehors. Chaud à l'intérieur de cet hôtel.
On retrouve Ceylan lors de la conférence de presse d'après attribution de la Palme d'Or. Il revenait sur la longueur de son film, oui, quand même, faut le dire, un peu plus de 3 heures.
Oui, oui.
Quand j'ai écrit le scénario, je n'avais pas pensé à l'aspect commercial. J'écris un petit peu comme un écrivain, quelqu'un qui écrit un roman. Il ne se préoccupe pas de la longueur du livre ou du roman. Mais en écrivant le scénario, je me suis rendu compte que ça durait 2 fois plus longtemps que mon film « Il était une fois en Anatolie ». Mais j'ai respecté tout le scénario. Au départ, le film durait 4h30. Mais lors du montage, j'ai raccourci un peu le film. Je ne sais pas. Ma femme et moi-même avons écrit le scénario ensemble. À cause du récit, à cause des personnages, nous avons opté pour un film très long. Nous avons en fait suivi les personnages. Et nous avons découvert que nous avions un scénario extrêmement long.
Oui, c'est le cas de le dire, oui. Mais on ne s'ennuie pas une seule seconde. Hein. Avec ce film long et dense, dont l'intensité ne faiblit pas une seconde, Ceylan poursuit une œuvre de moraliste. Grand dialoguiste, il met à jour un mécanisme argumentatif qu'il dissèque de manière clinique et selon lequel il tente de montrer que tout discours possède un sous-entendu qui, déployé, change considérablement la perception que l'on a de l'interlocuteur.
En somme, même les personnages les plus aimables au début deviennent tous plus ou moins des salauds, et vice-versa.
Eh oui, il faut tout de même saluer la performance artistique des deux comédiens de ce film, car tout repose sur eux deux. Alouk Bilginer et Melissa Sauzen sont tout à la fois torturés par un amour devenu presque un souvenir, une colère rentrée de ne pouvoir plus aimer comme avant, une mélancolie forte portée par ces deux sentiments précédents.
Ceylan filme comme il regarde. Il voit les troubles chez les êtres et les retranscrit dans la meilleure façon qui soit. L'œuvre de Ceylan, exigeante et austère, décrit par petites touches impressionnistes la difficulté de vivre pleinement sa vie dans la société moderne, à travers la peinture des relations intimes et sociales, contaminées par le rapport de classe, la famille, l'amitié et le couple. Ceylan affirme puiser son inspiration dans l'œuvre d'Anton Tchekhov et Henri Ibsen.
Oui, c'est pas rien quand même. Oui. Alors, comme le disait Schopenhauer, la vie oscille comme un pendule de droite à gauche, de la souffrance à l'ennui.
Issu de la bande originale, oui. Voici l'Andantino de la sonate pour piano numéro 1 de Franz Schubert, interprété par Christian Zimmermann.
Thank you.
Après 80 ans de récompense, seulement 3 femmes ont reçu la Palme d'Or. Alors pendant 28 ans, la seule qui a été primée, donc la première, fut la néo-zélandaise Jane Campion pour la leçon de piano en 93. Et encore, elle dut partager sa palme avec Chen Cage, qui l'a obtenu pour Adieu ma concubine, qui est quand même un film remarquable.
Bah, les deux, en fait, je pense que c'est vrai que, pour le coup, oui, c'est vraiment difficile de choisir.
C'est très, très difficile.
La deuxième de la très courte liste est la française Julia Ducournau avec Titane en 2021.
Ah oui, quand même.
Et oui, œuvre décomplexée au propos le plus dérangeant de la compétition cette année-là. Ceci dit, elle confirme le très lent mouvement vers l'égalité dans une industrie de cinéma historiquement dominée par les hommes.
Et enfin, l'année dernière, figurez-vous, la Palme d'Or est encore attribuée à une Française et une femme en plus.
Oula, non,
mais alors,
trop,
voyez-vous
trop,
ça
attention.
Justine Triet dédie son film Anatomie d'une chute aux jeunes réalisatrices et réalisateurs lors de la traditionnelle allocution en déplorant, je cite, que le gouvernement néolibéral soit en train de casser l'exception culturelle française. Paf ! Le public applaudit, mais la ministre de la Culture, Rima Abdul-Malak, réagit en se disant estomaqué par un discours ingrat et injuste.
3 réalisatrices récomposées, c'est peu. Et la sélection officielle 2024 ne compte que
4
films de réalisatrices.
Voilà. Hein, j'allais le dire, ouais.
On l'aura compris, il y a comme un problème et j'ai bien peur que le chemin ne soit long, voire très long, voire très 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 long avant que le retard ne soit rattrapé.
Le sera-t-il un jour ?
Eh oui.
À l'occasion de la sortie de la leçon de piano, Jane Campion, interviewée par Bernard Pivot, parlait de sa conception du romantisme exprimée à travers l'histoire de son film. Extrait.
J'étais très influencée par Emily Brontë et par Léo Durlevent, parce que pour moi, ça représente une attitude vis-à-vis du romanesque qui est mal compris aujourd'hui. Il y a une pureté, une dureté, une profondeur dans ces histoires romanesques, dans ce que raconte Emily Brontë. Et ça n'est pas doux, c'est pas comme ça qu'on voit le romantique. Vraiment, le romantique, c'est très fort, c'est violent, ça exige qu'on sacrifie sa vie sur l'autel de ce qu'on croit. Et ce qui m'intéressait, c'était de raconter une histoire. Une histoire dans ce genre, mais aujourd'hui, donc j'utilise des éléments du romantisme 19e siècle que tout le monde connaît, mais j'ai également pris des aspects du 20e siècle afin de pouvoir parler d'érotisme et de sexualité, et avec le regard d'aujourd'hui.
tiens, bonsoir. Alors, t'étais aux premières loges ? C'est génial ce genre de spectacle, hein ?
Ça, c'est vrai, ça !
Eh oui, ah donc,
ça, c'est vrai,
oui. Comme on est...
comme on est mardi.
On est mardi, demain, il y a malgré tout le Festival de Cannes, des sorties au cinéma.
Mais il y a quand même des sorties au cinéma, et pas que à Cannes.
Et pas que à Cannes, donc il faut aller au cinéma.
Il faut aller
donc
au cinéma.
Donc on va vous faire... On va vous donner les noms.
Les noms, on va cafeter.
Voilà.
Alors moi, j'ai un film de David Lambert, avec Olivier Gourmet et Dave Jones, qui s'appelle Les Tortues.
Ouais.
Alors, Harry et Tom vivent ensemble à Bruxelles et filent le parfait amour depuis 35 ans, enfin, en apparence. Mais depuis qu'Henry a pris sa retraite de policier, rien ne va plus. Ses journées sont fades et interminables, ses sentiments s'estompent et leur maison est devenue un vrai champ de bataille. Toujours amoureux, Tom est prêt à tout pour raviver la flamme et sauver leur couple, quitte à demander lui-même le divorce.
Ouais.
C'est intéressant, surtout que c'est un film vraiment sur... C'est pas un film sur l'homosexualité, c'est un film sur la relation humaine, la relation amoureuse. C'est bien que l'amour n'a pas de sexe.
Eh oui, tout à fait. Moi, c'est un film fait par une femme d'ailleurs, Jasmine Bekirian. Le titre, c'est « Les Reines ».
Oui.
C'est un road movie, on va dire, dans le désert marocain. Zineb s'évade de prison pour sauver sa fille de la garde de l'État. Mais tout se complique un peu plus lorsqu'elle prend en otage la conductrice d'un camion Asma. Les 3 femmes vont alors se retrouver sur les routes désertes de l'Atlas, poursuivies et traquées. Et on va les suivre, en fait, dans ce road movie, un peu à la Thelma et Louise.
Tout à fait.
Voilà.
Et puis on découvre l'univers de l'Atlas, on découvre un peu des paysages magnifiques.
Tout à fait, ça a l'air assez chouette.
Ouais,
est-ce que vous en avez un autre ?
J'en ai un autre, oui, tout
alors,
à fait. Alors, il s'appelle « Les 4 âmes du coyote » de Aaron Goder, avec Lorne Cardinal, Danny Kramer et Diane T. Black. Des activistes amérindiens s'opposent à un projet d'oléoduc sur leur territoire ancestral. Le soir, autour du feu, ils se réunissent autour de leur grand-père pour faire le récit de la création. Ce conte rappelle à tous la place de l'homme sur la Terre et son rôle dans la destruction de la nature. À noter que c'est un film d'animation, c'est pas un film. Donc, oui, c'est très, très, très joli comme image. Et donc, voilà. Et vous avez autre chose?
Oui, moi, j'en ai un. Ça s'appelle Don't Buy the Cellar de Park Hee-kun. Donc, c'est un film sud-coréen. Ah. Une femme qui a porté plainte contre le vendeur pour dysfonctionnement d'une machine à laver à la police se rend compte que ce vendeur est en fait un tueur en série.
Oh, et du coup,
oui, ça a l'air sympathique. Comme ils savent très, très bien faire les thrillers et les films un peu à suspense comme mm-hmm. ça, le cinéma coréen, je pense que ça peut être bien sympathique.
Un peu Mon voisin le tueur. Comment dites-vous que ça s'appelle ?
Don't buy the cellar.
Don't buy the cellar. Très bien.
Voilà, voilà.
Ben, figurez-vous que j'ai le regret de vous dire que Sinescence, c'est fini et bien fini.
Oh non.
Non, non, ne protestez pas. C'est irrévocable. L'épisode d'aujourd'hui est terminé. Mais à quoi pensiez-vous donc ? Nous nous retrouverons la semaine prochaine pour un nouvel opus de votre rendez-vous cinéma hebdomadaire.
Et ce sera à 14h sur O2 Radio, bien entendu.
Ben, bien entendu. Alors d'ici là, profitez du beau temps, hein, de ce week-end de 3 jours qui arrive à point nommé pour faire des barbecues, des balades en mer ou tout ce que vous voudrez. Cela ne nous regarde pas. Mais s'il vous prend le loisir de réécouter cet épisode, allez donc sur le site d'O2 Radio à la rubrique podcast et vous aurez accès aussi à tous les épisodes précédents. Nous, on se retrouve mardi prochain où il sera question d'une chose bien dans l'air du temps, l'immigration. On se quitte avec Pierre Perret et sa chanson Le Trophée. Allez, à mardi prochain et en attendant, bon vent à tous.
Ce soir, pour ma récompense, j'avais, dit-on, des chances infimes. Modestement, j'ai eu, je le pense, un coup de génie en tournant ce film. Je remercie l'équipe tout entière et le chauffeur de ma limousine, les gars du son et ceux de la lumière, et Marie-Jo qui a fait le casting. Je remercie l'auteur, ma femme et mon agent, et ma maman qui m'a fait si intelligent. Je n'oublie pas mon metteur en scène qui était cassé du matin au soir, ni les baisers de la star italienne qui aimait mieux l'ail que les carambars, les essayages de la costumière qui essayait tout jusqu'à mon divan. Je remercie ma doublure lumière qui se les gelait dans le mauvais temps. Je remercie la script, le chef opérateur, la maquilleuse et bien sûr la main du masseur. Je remercie la femme de ménage qui me dégotait mes barbituriques, et le producteur qui trouvait dommage que les scènes de viol manquent de comique. Merci encore de l'aide si précieuse de l'assistant qui gardait mon chien, et du soutien dans les heures creuses de la monteuse qui montait si bien. Je remercie Carmen, la gardienne andalouse, et sa belle-sœur qui posait si bien les ventouses. Je remercie l'habileté certaine du stomato qui a fait mes fausses dents, celle du cadreur qui a eu tant de peine à faire entrer ma tête dedans. Je remercie mon attaché de presse et le public qui m'ont dit génial, même le critique qui écrit sans tendresse que je serais mieux dans le rôle du cheval. Merci aux photographes, aux membres du jury et aux coiffeurs qui m'appelaient toujours mon chéri. Ce beau trophée, enfin je le partage avec mon psy qui est mort d'épuisement. Ma partenaire fut masque au montage, on y sucrait la moitié de ses plans. Je serais ingrat d'en profiter seul, et j'attribue leur part de gâteau aux nominés qui font tous la gueule, aux cascadeurs qui sont à l'hosto. Je remercie encore ma femme et mon agent, et ma maman qui m'a fait si intelligent.